Il est l'heure de commencer. Vous allez avoir une introduction à trois voix qui ne doit pas dépasser trois quarts d'heure pour qu'on ait le temps de débattre d'un sujet qui se prête au débat, même si c'est d'abord une réunion d'information. Pourquoi cette réunion, cette conférence débat sur les moulins et les chaussées de nos rivières? Je voudrais rappeler l'origine de tout cela. C'est pour nous à Saint-Antonin en 2016, une première réunion qu'on a faite, une réunion publique d'information, que nous avions organisée, nous les amis du vieux Saint-Antonin, pour découvrir et faire découvrir les projets des services de l'État pour nos rivières, du moins les rivières où il n'y a pas de barrage d'EDF. Et c'était la continuité écologique qu'on a découverte à ce moment-là. L'objectif de cette continuité écologique des services de l'État, je le résumerai ainsi, c'était effacer les vieilles chaussées pour retrouver la circulation des poissons, vieux sujet quand même, les passes à poissons ne suffisent pas, et la circulation des sédiments, ça c'est les moulins qui n'y suffisent pas. À Saint-Antonin, cet objectif, ça voulait dire effacement de la chaussée de Roumégous, qui commande, vous le savez tous, le niveau d'eau, donc ce que nous appelons le miroir d'eau, qui fait beaucoup pour la beauté de notre site, qui est un site protégé en partie pour cette raison. Cette première réunion, qui a eu lieu le 22 mars 2016, avait accueilli les services concernés de l'État, le maire qui était présent et près de 150 personnes. Je n'en dis pas plus, mais cette réunion, nous nous en sommes rendus compte après, a beaucoup freiné l'ardeur des services de l'État. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Je ne vais pas vous raconter les trois années. Je dirais simplement que des propriétaires de moulins, des associations, se sont un peu insurgés, peu à peu, dans toute la France. Ils ont mis en avant deux valeurs de ces vieux moulins et chaussées. Le patrimoine, souvent vieux de plus de 500 ans, comme Roumégous, 1499. 1499, c'est la date de constitution du premier syndicat pour exploiter le moulin de Roumégous, d'une part, et l'énergie hydroélectrique de l'autre, qui correspond aux nouveaux besoins d'énergie renouvelable. Donc deux valeurs qui étaient mises en avant par ceux qui ont discuté, contesté parfois la politique de continuité écologique. Et pour nous, à Saint-Antonin, ça a eu deux conséquences. D'une part, les lois ont un peu évolué par rapport à l'impératif de continuité écologique qui avait été fixé en 2006. Il y a eu des circulaires interministériels qui ont recommandé de nuancer le propos en prenant en compte la valeur patrimoniale des moulins en 2017, et une loi de 2017 aussi a exonéré de l'obligation de raser ou effacer les moulins, les chaussées, les moulins équipés pour produire de l'électricité. Et d'autre part, nous, à l'Association des Amis du Vieux Saint-Antonin, depuis trois ans, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a trouvé le contact avec les associations qui sont déjà engagées sur cette question, comme celle que nous accueillons aujourd'hui, l'Association pour la sauvegarde des moulins du Quercy, qui a tenu ici, ce matin même, son Assemblée Générale. Et je m'arrêterai là pour cette introduction, parce que ça vous éclaire sur le plan de notre introduction. Dominique Perchet, qui a beaucoup travaillé ce sujet, beaucoup d'entre nous le savent, parlera de l'histoire et de la valeur du patrimoine que constituent ces moulins de notre région et leurs chaussées. Ensuite, le travail de l'Association des moulins du Quercy, et notamment leur projet de réveil des moulins, sera présenté par Serge Despérou, qui est ici dans la salle et qui a beaucoup parlé ce matin dans l'Assemblée Générale de son association. Et puis je terminerai plus brièvement par un retour sur l'actualité à Roumégous, puisqu'on est vraiment dans une question qui est actuelle, et c'est aussi une des raisons de cette réunion aujourd'hui. Voilà, vous aurez donc trois quarts d'heure d'introduction, et nous avons pensé que vous feriez l'effort de participer au débat par vos questions. Ensuite, merci. Je donne la parole à Dominique Perchet.
Merci. Donc dans un débat qui, enfin dans un exposé qui est forcément, pendant que les metteurs au point... forcément dans un cadre limité, celui qui m'est imparti, je ne vais pas vous raconter tous les moulins et toutes les histoires des moulins, je pense que beaucoup les connaissent, même si on découvre des choses chaque jour. Je rappelle qu'il y a un bulletin des Amis du Vieux Saint-Antonin qui est paru en 2016, qui parle des chaussées comme objet méconnu et qui fait un, un, un travail donc de recollection de toutes les sources qu'on pouvait avoir sur les moulins du secteur de Saint-Antonin. Par ailleurs, quand l'Association nationale des moulins est venue faire son congrès national dans la région, elle est venue à Saint-Antonin aussi, on avait fait un petit document qui est là. Alors, c'est ce qui me reste dans le tirage. Je vais partager en deux. Je vous propose de vous servir en espérant que tout le monde pourra avoir un exemplaire, sachant que ce document est aussi en ligne sur Internet, sur le site des amis du vieux Saint-Antonin. Voilà, donc pour les préoccupations très matérielles, donc je vous remets ça donc en espérant que vous pourrez être servi. Alors, le problème du patrimoine des moulins, c'est qu'effectivement, il est très varié, il est très vaste, donc quand on veut le décrire, on est obligé effectivement de revenir sur des classifications. Et la première, je m'assieds parce que j'ai des problèmes sciatiques. La première préoccupation, c'est effectivement déjà de décrire, d'inventorier les moulins, les biens, ce qui n'est pas toujours facile parce que il y a des moulins disparus, il y a des moulins qui existent, etc. Donc il y a de tout. Donc je ne vous ferai pas cet inventaire, mais je voulais revenir un peu sur les problèmes de méthode. Ensuite, ces moulins, dans le temps, ils ont connu une origine, une évolution. Beaucoup de moulins se sont transformés, ils ont servi à des tas de choses, de travail du blé jusqu'au phosphate, jusqu'à l'hydroélectricité maintenant. Ensuite, ces moulins, ils sont dans l'espace, ils sont dans un territoire, ça n'est pas par hasard. Hein, donc pourquoi il y a un moulin à cet endroit et pourquoi il n'est pas forcément ailleurs, c'est une question qui paraît idiote, mais qui n'est pas tant que ça. Et donc, on ne va pas balayer tout ça très rapidement, parce que je voudrais arriver à ce qui est le cœur de la réflexion d'aujourd'hui, c'est celui de la cohérence de ce patrimoine, en focalisant sur deux cohérences. L'une, c'est moulin par moulin, quelles sont les fonctions qu'a eu et qu'a un moulin aujourd'hui, et comment, pourquoi et comment on fait pour le préserver. Et puis ensuite, il y a dans un territoire, disons pour faire clair, entre le Quercy et le Rouergue, il y a tout un patrimoine de moulins assez exceptionnel, et comment on fait pour aussi préserver l'ensemble. C'est-à-dire, c'est pas la même chose que de préserver un site que de préserver l'ensemble, parce que cet ensemble, il a aussi une signification. Alors, décrire, s'il y a bien un sujet qui a été largement commencé, c'est la description de tout le patrimoine des moulins. Donc vous avez eu, par exemple, alors je suis sûr que j'en oublie, donc je m'excuse auprès de ceux qui se sentiraient lésés, mais nous avons un inventaire important qui a été fait par le CAUE. Alors, le CAUE, c'est le Conseil d'aménagement, d'urbanisme et d'environnement, ou d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, qui en 99-2000 avait fait une étude pour une valorisation touristique des moulins. Donc nous avons des fiches qui évidemment sont datées de cette époque, mais qui nous donnent un certain nombre de repères sur les moulins. Ensuite, il y a eu un gros travail qui a été fait par la communauté de communes, la QRGA, dont vous avez une petite vignette ici, des documents qui ont été faits par des bureaux d'études et dont la finalité est très simple, c'est la continuité écologique. Donc on passe en revue les bassins, les rivières, et on regarde quels sont les problèmes qui se posent pour et dedans, à la fin, souvent, il y a une petite ligne sur l'intérêt patrimonial d'un moulin, mais c'est vraiment annexe. Ce qui compte, c'est surtout comment on fait circuler l'eau, les poissons et les sédiments, pour reprendre les mots qu'a employé Thierry Leroy. Et puis, l'inventaire du ministère de la Culture, ici dans le patrimoine, l'inventaire du fait au niveau du pays Midi-Quercy, a aussi travaillé sur ces ensembles et a aussi apporté un autre éclairage donc sur les moulins, mais là tous les moulins ne sont pas traités. Donc depuis qu'on a donc la problématique des moulins dans le collimateur, on a effectivement beaucoup d'approches. Certains travaillent sur l'aspect naturel, sur la culture, l'économie, l'énergie. Une nouvelle préoccupation apparaît et qui a été évoquée justement ce matin, c'est celle de l'acceptabilité sociale. C'est-à-dire que si on touche à un moulin, qu'est-ce qui se passe, hein? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut détruire impunément une chaussée, est-ce que ça ne va pas, comme disaient certains à Casals, est-ce qu'on ne va pas trouver la population devant la pelleteuse au moment où on voudrait effacer la chaussée de Casals? Ou bien est-ce que finalement la population est indifférente à ce patrimoine? C'est une question qui a monté beaucoup ces temps-ci, parce que on voit bien que les réformes, pour parler très politiquement, les réformes, par moment, c'est comme certains remèdes, ça passe ou ça passe pas. Alors, pour vous montrer très rapidement, voilà un exemple pour revenir à Roumégousse, par exemple. Roumégousse, nous avons fait pour justement en vue du congrès national de la Fédération des Moulins, sachant que certains congressistes allaient venir. Nous avons commencé une espèce d'atlas des moulins dans le secteur de Saint-Antonin, et voilà pour Roumégousse, on a mis ensemble des ensembles d'éléments qu'on connaissait. Alors je ne vais pas vous les lire, mais vous voyez, vous avez des cartes sur les profils, vous avez la carte IGN, vous avez des photos satellites, vous avez des photos des installations intérieures, vous avez un texte technique, donc tout ça fait partie des documentations d'inventaire, et simplement pour montrer pour mémoire, sachant que tout ça est en ligne maintenant sur le site internet des Amis du Vieux Saint-Antonin. Le CAUE avait fait un travail dont voici aussi une copie, alors j'ai assemblé plusieurs pages, mais vous avez la situation géographique, vous avez le plan du moulin et de la chaussée, vous avez une photo, alors à l'époque tout est en noir et blanc, hein, mais vous avez donc un inventaire qui donne des choses intéressantes, mais très axé aussi tourisme. Et puis, en 1987, les photos d'Amélie Galup, celles de 1897, et puis les photos faites plus récemment, au moment de la conférence de 2016, quand on a eu le débat, voilà les photos qu'on avait à l'époque. Donc aussi, tout ça fait partie d'une description des chaussées. Alors pour les chaussées que vous connaissez bien, ça vous paraît évident. Pour certaines chaussées, ça l'est moins, parce qu'il faut aller traquer l'information. Les documents historiques ne sont pas forcément en première page de Google. Hein, voilà. Et puis, pour rester à Roumégousse, quand... les entreprises fournisseuses d'hydroliennes sont venues tester les possibilités d'équipement de Roumégousse pour produire de l'hydroélectricité. Ben, nous avons eu la possibilité, ce qui n'était pas facile, de rentrer, effectivement, d'accompagner les visites et de descendre dans le sous-sol, par exemple, de l'ancien moulin de Roumégousse. Alors, ne confondez pas avec le gîte qui est en grande photo. Mais on voit à quoi ressemblent les installations, les vestiges d'installations dans lesquelles peuvent se couler ou se coller des hydroliennes productrices d'électricité. Donc on a pu le faire au Gravier, on a pu le faire dans un certain nombre de sites, à Salette, etc. Donc c'est des choses qui sont pas, c'est pas toujours facile d'accès, mais là on a pu en profiter. Voilà. Donc un inventaire, je reviendrai tout à l'heure sur la notion de projet autour de l'inventaire. Bon. Ensuite, on essaie de placer donc ces moulins dans le temps. Alors là, la réflexion est bien plus simple. C'est première question, est-ce que les moulins sont d'origine monastique? C'est ce qu'on dit et c'est en grande partie vrai. Et c'est une des choses qu'on voudrait approfondir avec l'association des cisterciens en Rouergue, puisqu'on sait que les cisterciens, quand ils se sont... installés dans les territoires, ont beaucoup misé sur l'énergie hydraulique, les créations de moulins. Et, mais ce n'était pas uniquement ça, il y a pu y avoir des moulins avant, avant les cisterciens, il y a pu y avoir des moulins après, enfin c'est tout ça. Il y a un développement au fil des siècles, les moulins en plus ont changé de technique, il y a eu des nouveaux usages, donc la chronologie n'est pas inutile. Si on fait une étude patrimoniale, c'est vrai qu'on a besoin de se rendre compte des transformations qu'il y a pu y avoir dans un site. Les deux photos de sépia et noir et blanc, c'est le site du Martinet, donc sur la Bonnette, hein, donc, où il y avait un moulin hydraulique, et ensuite, après, il y a eu l'usine avec la machine à vapeur. Voilà, la carte d'état-major de 1849 est une carte détaillée qui vous montre l'emplacement des moulins tout autour de Saint-Antonin, comme dans la carte de Cassini qui date de 1810, qui d'ailleurs est importante parce qu'elle détermine les moulins qui sont ce qu'on appelle fondés en titre, c'est-à-dire qu'ils ont une existence légitime de par leur ancienneté. Les petits ronds rouges que vous voyez dessinés au bord des rivières matérialisent effectivement les installations hydrauliques, donc sur le bord de la Bonnette, sur le bord de l'Aveyron. Puis on a comme ça toute la région, on a la France entière hein, d'ailleurs. Et donc ça montre qu'il y avait vraiment un quadrillage extrêmement important du territoire. Et ça se termine par une carte relativement récente, puisque le CAUE en 1999 avait fait une carte de tous les moulins qui étaient dans le secteur. Alors autant les moulins à vent et les moulins à eau, hein, peut-être sans oublier le moulin huile de noix, mais enfin lui il est tout seul. Donc on a cette carte-là qui nous donne l'importance de ce patrimoine. Si je montre ça, c'est bien pour dire que ce n'est pas un patrimoine ordinaire qu'on peut traiter comme ça, bon, comme on traiterait une occurrence, une chapelle. Bon, on a vraiment un patrimoine constitutif de l'histoire du territoire et de son existence. Certains ouvrages ont disparu. La petite photo que vous voyez en bas à droite, c'est non pas Fénérols, mais le moulin de Castagnerette, qui est un moulin qui était situé en aval du moulin des Ondes. Et on voit juste la trace quand on se promène à pied sur le sentier de la Loutre. On voit bien les traces dans l'eau de ce qui était la chaussée, qui avait été d'ailleurs photographiée par Amélie Galup. À l'époque, elle fonctionnait encore. Voilà. Autre façon de situer tout ça pour brosser un peu le cadre patrimonial. Ces moulins, donc évidemment, ne sont pas, je l'ai dit tout à l'heure, ne sont pas installés n'importe où. Alors, il y a soit les moulins qui sont dans la ville. Alors, ceux-là, vous les connaissez. C'est les moulins, les chaussées qui sont près du camping en amont de Saint-Antonin sur la Bonnette, qui amènent l'eau par les canaux aux deux moulins du Bessarel et au moulin des Claustres. Donc deux moulins évidemment qui ne fonctionnent plus, mais qui ont encore une présence dans l'architecture. Et puis vous avez les moulins qui se sont faits, comme sur la carte vous l'avez vu, tous ces moulins qui se sont installés en fonction du territoire et qui ont servi d'abord à aménager le territoire, donc drainer notamment des espaces marécageux, qui ont amené la force motrice remplaçant la peine des hommes, qui ont permis de valoriser les ressources locales, et ça s'est terminé par le dernier épisode, c'est effectivement l'utilisation de l'eau. Alors cette fois-ci, ce n'est pas un moulin, mais l'utilisation de l'eau, effectivement, avec les thermes, l'économie des thermes à Fénérols et à Saint-Antonin. Voilà. Donc, ce petit dépliant que j'ai fait circuler vous montre que le plan de l'eau à Saint-Antonin qui a été dressé par Cécile Rival, c'est dans sa thèse, est un plan extrêmement important. Il permet d'expliquer la structuration économique de la ville. Si on y ajoute ce que dit Jean-Louis Laborie, les fossés, les limites de la ville qui utilisent aussi l'eau, on a vraiment une place fondamentale, au sens vraiment des fondements, dans l'histoire de la ville de cette eau. Donc on a un système exceptionnel qui est extrêmement fragile d'ailleurs, parce que imaginons qu'on fasse sauter ou qu'on aménage, entre guillemets, comme ça a été prévu un temps, les deux chaussées qui sont près du camping et qui alimentent les canaux de Saint-Antonin, qui passent, je ne sais pas très bien ce qui arriverait aux canaux de Saint-Antonin. Et je ne sais pas très bien ce que l'économie touristique d'ailleurs pourrait garder une fois qu'on aurait mis à sec des canaux en faisant des contournements de chaussées sur la Bonnette. Alors, le petit dépliant vous montre aussi cette carte hein, où on a essayé de placer toutes les chaussées autour de Saint-Antonin, vraiment dans un truc très proche, là-bas de Castagnerette à Salette, du Moulin des Ondes au Martinet, donc tout un patrimoine qui est assez bien connu, qui a eu des histoires éventuellement un peu moins connues parce que ça s'est développé, ça a été détruit, ça a été reconverti. Enfin, ils ont tous eu des activités extrêmement variées et donc c'est important de revenir sur ce patrimoine. Dans le cadre d'un pays d'art et d'histoire, notamment, moi ça me paraît fondamental effectivement de connaître ça par cœur. Alors j'en arrive maintenant au cœur de l'introduction. Je vais reprendre la casquette de mon précédent métier. Vous savez que j'étais consultant en développement local. Et je voudrais montrer en quoi le patrimoine des chaussées et des moulins, une fois qu'on lui a trouvé des cohérences historiques, géographiques, etc., ces cohérences sont constitutives éventuellement du projet qu'on pourrait mettre en avant dans les décennies à venir, parce que pas uniquement l'année prochaine, hein, dans les décennies à venir. Et nous avons deux cohérences qui s'emboîtent avec des niveaux de, oui, d'emboîtement qui permettent de dire que les moulins, les chaussées sont quelque chose auquel il faudrait toucher avec extrême prudence. Et quand je dis ça, ça veut dire que même pour certains, il ne faut surtout pas y toucher. Hein. Donc, il ne dérange personne. On va en reparler. Les poissons passent. Même, ils empruntent même pas les passes à poissons. Ils passent tout droit. L'eau circule en permanence par-dessus les seuils. Hein. Je rappelle qu'un barrage, c'est plus de 20 mètres et l'eau est arrêtée, vraiment. Une chaussée ou un seuil, c'est généralement moins de 5 mètres de haut. Et l'eau passe partout, elle passe par-dessus, elle passe par les côtés, ce qui permet aux sédiments et aux poissons de circuler sans problème. Alors, la première cohérence qui pose problème, notamment déjà quand on parle avec les autorités de l'État, c'est effectivement la cohérence que nous impose en théorie la directive européenne, hein, donc qui est à l'origine de tout ce problème. Qu'est-ce que le moulin, il est au cœur d'un triangle. Alors je parle du moulin tout seul, prenons celui de Romégousse, par exemple, du gravier. Il est au cœur d'un triangle vertueux, j'allais dire un triangle amoureux, mais ce n'est pas ça. C'est qu'il faut effectivement préserver la qualité de l'eau, c'est ce que nous impose l'Europe. Et il faut éventuellement, si possible, vu les contraintes, l'évolution de notre société et du monde, une production énergétique entièrement renouvelable que nous permet l'eau. Et enfin, vu aussi notre territoire et son positionnement orienté sur le patrimoine de la nature et la culture, il faut aussi protéger ce patrimoine. Donc, et c'est, pour certains, ça paraît difficile. Pour nous, ça paraît relativement aisé, à condition effectivement de le vouloir. Alors j'en profite pour rappeler ce que diront peut-être mes personnes qui interviennent après moi, c'est que la directive européenne n'a jamais imposé la continuité écologique. La directive européenne dit tout le monde doit disposer d'une eau abondante et de qualité, et basta, chacun se débrouille avec ce qu'il veut pour faire. En France, on a choisi la continuité écologique, c'est-à-dire de s'en prendre aux seuils, aux obstacles, en disant les poissons ne peuvent plus remonter et les sédiments ne peuvent plus descendre. Tout simplement, alors je vais être très direct, c'est parce que c'est plus facile de s'en prendre au seuil, il suffit de mettre une pelleteuse, que de s'en prendre à la pollution agricole, que de s'en prendre aux pesticides, que de s'en prendre aux effluents urbains, de s'en prendre à tout ce qui met à mal la qualité biologique de l'eau. C'est plus facile de s'en prendre au physique que de s'en prendre au biologique. Donc on a choisi en France, et la France est le seul pays européen qui a adopté cette voie. J'évoquais tout à l'heure la chaussée en Angleterre. Il y a une chaussée qui ressemble à celle de Romégousse, hein, qui est en forme. Alors ici, elle est en V. En Romégousse, elle est en forme de fer à cheval. Elle s'appelle Horseshoe Fall, exactement sur une rivière comme l'Aveyron. Ça s'appelle la Dee. Il y a un canal qui en part et qui va alimenter les usines métallurgiques historiques de la révolution industrielle à Coolbrookdale et à Ironbridge. C'est un site. On n'y a rien touché. C'est un site quasiment UNESCO. Hein, on va se promener, on va pêcher, etc. Personne n'aurait l'idée là-bas de dire « Ah, il faut faire une brèche dans la chaussée de Horseshoe Fall ». Je pense que les Anglais, là aussi, comme à Casals, ils seraient tous devant la pelleteuse. Hein, donc le problème du triangle vertueux, c'est que il faut travailler effectivement à concilier ces trois objectifs. Et c'est là que, on en parlera tout à l'heure dans le débat, pour l'instant je campe le débat, mais c'est là où il y a un certain nombre de choses qui posent problème, parce que pour concilier ça, il faut encore avoir envie de concilier les choses, et j'en reparlerai quand on reviendra sur le débat, je me permettrai de revenir là-dessus, parce que les exemples que nous avons sont quand même assez parlants. Et puis, si jamais une chaussée disparaît. Ben voilà un exemple. En 1930, la crue de 1930 a fait disparaître la chaussée de Romégousse. En 1946, quand l'IGN, l'Institut Géographique National, a fait ses premières photos avions, au-dessus de Saint-Antonin, la chaussée n'était pas encore reconstruite. Et qu'est-ce qu'on voit, j'ai pas de pointeur, mais qu'est-ce qu'on voit? Donc le pont est ici, et puis vous avez à la place du miroir d'eau, vous avez un torrent avec pas beaucoup d'eau, avec des dépôts de sédiments. L'Aveyron passe là-dessus en travers comme elle peut. Et d'ailleurs, d'après ce que j'ai lu, les habitants avaient commencé à rouspéter parce qu'en plus, les stations d'épuration à l'époque n'étaient pas aussi performantes, ça sentait mauvais. Donc on a rebâti la chaussée de Romégous, on l'a reconstituée. Donc j'en profite aussi pour dire que une chaussée, évidemment, a des tas de formes, enfin d'avatars, elle s'est transformée, mais l'objet chaussé lui-même reste. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est passé de tel matériau à tel autre matériau que la chaussée n'est pas la même. Donc toutes ces rivières dans notre secteur, que ce soit l'Aveyron, ici on parle d'Aveyron aval, le Vior, la Seille, la Bonnette, l'Avert, le Cérou, toutes ces chaussées donc ont été équipées en seuil. Et donc, c'est tout un pays qui s'est développé. Alors, est-ce que c'est Saint-Bernard, s'il est venu d'ailleurs, qui a fait développer les moulins, parce que la devise des cisterciens, donc, c'est ora et labora, c'est-à-dire tu pries et tu travailles, mais finalement, si le moulin travaille à ta place, tu peux prier mieux. Puis en même temps, tu remplis les caisses de l'abbaye. Donc ça augmente la puissance de l'abbaye. Et en tout cas, tout le monde est d'accord pour dire que les cisterciens ont créé une économie rationnelle extrêmement productive. C'est ce que nous, on appelle la première révolution industrielle fondée sur l'utilisation des moulins. Les bénédictins, eux, comme l'abbaye de Saint-Antonin, ne s'occupaient pas, c'était pas leur truc. Hein. Ils vivaient pas de la même façon. Les cisterciens ont vraiment changé la donne. Ce qui explique d'ailleurs qu'avec l'abbaye de Beaulieu et l'association des cisterciens en Rouergue, on voudrait, si possible, pouvoir approfondir ce genre de recherche historique pour savoir ce qu'il y avait avant, comment ça s'est développé. Et c'est aussi un argument pour nous vis-à-vis de l'administration pour dire « touche pas à mon patrimoine ». Parce que pourquoi on protégerait Beaulieu, abbaye, et pourquoi on ne protégerait pas les chaussées qui sont elles-mêmes issues de l'abbaye? Elles sont une extension de ce patrimoine historique. Et si je reste sur le champ du patrimoine, hein, je laisse de côté la qualité de l'eau et l'énergie, c'est un autre sujet qui est compatible, pourquoi finalement on dénigrerait finalement tout ce patrimoine au motif qu'il est pas, c'est des barrages, c'est des seuils, etc. Donc le dernier transparent que je vais vous montrer, c'est un transparent sur la méthode. Alors, là, je termine hein, avec ça. Mais donc nous avons, et ça me semble être une manière d'organiser peut-être le débat, mais surtout d'organiser la façon de travailler pour après. C'est-à-dire que finalement, nous avons en haut, donc je disais, un pays, un bassin hydraulique, ce qu'on appelle l'Aveyron aval. Hein. L'Aveyron aval, c'est l'Aveyron et tous ses affluents. Donc ça, on voyait bien ce que c'est. Nous avons dedans des moulins qui sont installés, Je rappelle qu'un moulin, c'est une chaussée, une rivière, des droits d'eau, des vannes et des installations de production. C'est un tout, ça ne peut pas être coupé en morceaux, hein, même si c'est déjà arrivé, comme à Salette. Normalement, c'est un tout indissociable. Donc les moulins, et puis ce qu'il faut faire avec ça, c'est comment on peut trouver une cohérence territoriale qui permette d'y asseoir un projet. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on raconte et qu'est-ce qu'on fait? Alors, on peut faire de l'énergie, on peut faire du poisson, du tourisme, du canoë-kayak, on peut tout faire, mais il faut que ce soit un projet cohérent qui permette de donner du sens et qui montre bien que tous ces moulins sont reliés entre eux et qu'ils ont une histoire et un rôle commun. Et enfin, ça permet d'avoir une politique de valorisation sur le thème nature-culture. Hein, mais on peut faire de l'écologie, on peut faire de l'énergie, du patrimoine, du tourisme. Ça peut servir à l'image de marque du territoire. D'ailleurs, les gens le savent bien, quand ils viennent ici, c'est aussi pour l'Aveyron. Hein, donc, on a un sujet et on retrouve cette trilogie vertueuse. C'est-à-dire que comment on préserve la qualité de l'eau? Donc, est-ce que d'abord, nous, en tant que patrimoine, je parle des amis du Saint-Antonin, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Est-ce que c'est notre sujet ou pas? C'est peut-être aussi le sujet d'autres instances. Hein, Mais par exemple, quand l'agence de bassin Adour-Garonne travaille sur le projet de valorisation du bassin Adour-Garonne, ils ont eu une séance ici qui a duré plusieurs jours, ils en ont eu plusieurs, j'aurais bien aimé que l'aspect patrimonial soit abordé, ce qui n'a pas été le cas. Hein. Donc ça montre bien que quand on dit qu'il faut tous ensemble travailler en même direction, il faut savoir ce que veut dire le mot « tous » et le mot « ensemble hein, ». Donc, hein. Ensuite, la dynamique, manifestement pour nous, c'est valoriser l'énergie, parce que dans nos temps de difficultés climatiques et la crise écologique, il me semble que c'est vraiment devenu maintenant une priorité, sachant que toutes les chaussées, on en parlera, toutes les chaussées peuvent accueillir des micro-équipements, et des fois même de façon invisible. On peut, par exemple, dans le moulin de Fontalès, poser une micro-hydrolienne le matin, elle fonctionne le soir, et vous ne voyez pas la différence. Hein, donc, qu'on ne vienne pas nous dire qu'il faut vraiment faire des gros travaux pour adapter certains équipements. Et enfin, valoriser le lieu, donc l'histoire, le patrimoine, le paysage, l'identité territoriale, c'est ça donc, qu'il faut maintenant mettre en œuvre. En fait, donc, j'ai pas la réponse aujourd'hui, mais la question est l'ouverture que j'aimerais qu'il sorte à la fin de cette journée et des réflexions qui vont suivre, c'est comment, enfin, tous ensemble, on est capable de raisonner pour faire concilier ces trois choses, plutôt que de les séparer, de mettre des barrières étanches qui font que, de toute façon, ça se terminera au tribunal. Donc, il est important de créer de la cohésion, et le thème de l'eau n'est pas neutre, hein, donc, mais ce n'est pas gagné, parce qu'on reparlera dans le débat tout à l'heure. Moi, je vous citerai quelques exemples, j'ai évoqué ça un peu ce matin, mais quelques exemples qui montrent qu'il y a encore du chemin à parcourir, que ce soit du côté du service de l'État, que ce soit des services éventuellement dans les bureaux d'études, par exemple, ou bien tout simplement dans les démarches d'agences de bassin. Nous avons, c'est pas encore gagné, et donc c'est patrimoine qui me semble extrêmement important, qui est lié à toute l'histoire du territoire, ne peut pas être traité à légère et ne peut pas être traité à coup de pelleteuse, notamment. D'autant que l'argent qui est mis là-dedans est un argent colossal. Vous savez que pour aménager la chaussée de Salette, qui appartient à Montauban, qui veut la faire sauter, hein, plus ou moins, pour simplement aménager Salette, qui n'a dérangé personne, c'est entre 350 000 et 600 000 euros. Dites-moi si l'argent est si abondant que ça pour qu'on mette 600 000 euros, même 350 000, dans un aménagement de Salette, qui en plus privera le moulin et le centre de vacances de ressources énergétiques dont il a besoin et dont il pourrait profiter. Voilà.
Bonjour à chacune et à chacun. Je m'appelle Serge Desperoux. Je suis vice-président de l'association de sauvegarde des moulins du Quercy. Je suis paysan et fils de meunier. Je vais vous infliger une petite lecture d'une douzaine de minutes, pas plus, c'est promis, sans support visuel, à l'ancienne. Et je vais donc vous présenter une des actions sans doute quand même, de l'association de sauvegarde des moulins du Quercy, qu'on appelle le réveil des moulins et qui est une réponse, un appel à projet de la région Occitanie jointe à l'ADEME. La gestion durable de l'eau repose sur un grand nombre de textes internationaux, européens et nationaux. La directive cadre européenne sur l'eau de 2000, dite DCE, et notre loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006, dite LEMA, qui en découle, sont deux textes centraux qui structurent la politique publique de l'eau en France. La DCE impose la recherche de qualité des eaux et la lutte contre les pollutions. Sa transcription augmentée dans la LEMA rajoute la notion de continuité écologique et de libre circulation de la faune piscicole et des sédiments. L'interprétation de la loi par les services chargés de son application a entraîné le classement des cours d'eau et le répertoire exhaustif des obstacles au rétablissement de la circulation des poissons et des matières véhiculées par le courant. Si on s'en tenait à ces propos, nous serions en droit de croire que cette affaire participe d'une certaine logique, et pourtant, elle est contestée par la mémoire qui a valeur d'expertise locale et qui s'impose à tous lorsque les plus anciens d'entre nous se souviennent fort bien que tous nos cours d'eau regorgeaient de poissons, y compris amphihalins, jusqu'aux années 60-70, et que les sédiments étaient évacués par les chasses que nos moulins pratiquaient pendant leur fonctionnement. Il faut donc chercher ailleurs les raisons de cette déshérence, et avant même le changement climatique, tant du côté de la forte dégradation de la qualité des eaux suite à l'intensification de l'agriculture et la multiplication des assainissements imparfaits, et que par les nombreux prélèvements comme les captages pour l'eau potable, l'irrigation et les loisirs. Parce que tous les ouvrages dont les seuils faisaient partie intégrante de nos usines hydrauliques en lit mineur étaient dûment répertoriés, caractérisés et donc autorisés par l'administration, entre autres fiscale de l'époque, et qu'aucun d'entre eux n'a été modifié depuis, nous pouvons affirmer que l'autorité publique se discrédite en déjugeant ses prédécesseurs, prend nos aînés pour des imbéciles et dénie toute l'histoire au moins séculaire de l'industrialisation de nos territoires, rendu possible grâce au moulin, premier moteur de l'humanité. Parce que la chose trottait déjà dans nos têtes, et que la sauvegarde des moulins en général, et ceux du Quercier en particulier, passe par une démarche d'approche globale pour un développement local, relevant du principe qui consiste à penser globalement, agir localement, la réhabilitation de toutes leurs composantes, au-delà de la maison au bord de l'eau, d'abord une chaussée qui dirige l'onde vers un mécanisme qui transforme son énergie en mouvement, puis un canal de fuite ou de restitution immédiate de la totalité du flot sans modification physico-chimique au lit mineur naturel, et enfin un droit d'eau qui autorise l'emprunt d'une certaine quantité du flux avec ou sans chute et qui détermine la puissance du site. Et pour que ce patrimoine soit correctement restauré, efficace et utile, vient naturellement à l'esprit de lui rendre sa fonction initiale ou une activité de substitution dont la production d'hydroélectricité semble s'imposer en tant qu'énergie verte si prisée aujourd'hui pour la mise en place du mix énergétique recherché aussi par nos instances dirigeantes. Fort opportunément, la région Occitanie s'est engagée en 2017 à devenir une région à énergie positive, REPOS, à l'horizon 2050, c'est-à-dire à satisfaire l'ensemble de sa consommation d'énergie par une production d'énergie nouvelles et renouvelables issue exclusivement de son territoire. Cet engagement est une exigence qui s'impose à tous les infra-territoires qui la composent en encourageant l'ensemble des organismes à l'aider à atteindre cet objectif qui prend de jour en jour tout son sens. Puis elle lance conjointement avec l'ADEME, Agence de développement et de maîtrise de l'énergie, organe d'État, en 2018, un appel à projet de production d'énergie nouvelle, renouvelable, coopérative et citoyenne, auquel l'Association de sauvegarde des moulins du Quercy, Lot et Tarn-et-Garonne, a répondu avant le 19 octobre pour se voir. Le 11 décembre, lauréate de la APPCC, donc appel à projet coopératif et citoyen, au salon Energaïa de Montpellier. Entre-temps, notre dossier fut présenté à la DREAL, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, en préalable du jury commun, sans susciter d'objection de sa part. Le scénario repose, précise, la production hydroélectrique présente des avantages exceptionnels, aucune émission de gaz à effet de serre, aucun déchet toxique, un rendement très élevé à la production par turbinage et la possibilité de faire varier celle-ci très rapidement. Il est à noter qu'à puissance égale, une turbine hydraulique produit annuellement deux fois plus de quantité d'électricité qu'une nappe photovoltaïque et qu'elle lui est parfaitement complémentaire été-hiver, jour-nuit. Une microcentrale correctement équipée sur les rivières Aveyron ou Célé, dans leur traversée des départements qui nous concernent, peut produire jusqu'à 600 000 kWh et un chiffre d'affaires avoisinant les 60 000 euros. Son effacement ne coûterait donc pas seulement le prix de la démolition, mais confisquerait au territoire un produit brut de 60 000 euros par an de vie de l'installation. Les 11 et 12 mai derniers, nous avons largement contribué à l'organisation du Congrès national de la Fédération française des associations de sauvegarde des moulins dans le Lot à Saint-Géry-Verse. Il fut un véritable succès avec plus de 150 congressistes venus de toute la France, la présence de plusieurs parlementaires, du président du département du Lot, de la Fédération départementale des énergies, du des présidents de comités de communes, du syndicat de rivière du Limboulas, en Tarn-et-Garonne, et de votre président de l'association des Amis du Vieux-Saint-Antonin, qui furent unanimes à considérer l'intérêt majeur de notre projet de réveil des moulins en Quercy et vouloir s'y rallier pour satisfaire leurs propres engagements. L'État y était invité. Ni la mission du ministère d'État Nicolas Hulot, confiée en son temps aux anciens parlementaires Jean Launay et Claude Miqueux, ni les nombreuses commissions parlementaires relatives à la reconnaissance du rôle que peut jouer la petite hydroélectricité dans la transition énergétique et bien sûr écologique, ni le constat d'interprétation nuancée de la loi au sein de notre grande région, ni même la note technique ministérielle du 30 avril 2019 recommandant l'apaisement de nos relations sur le terrain, n'ont jamais laissé entrevoir l'amorce d'une inflexion des services de l'État en département à l'égard d'un projet qu'il possède depuis plusieurs mois, alors que ce dernier n'a jamais cherché autre chose qu'obtenir la redistribution des cartes pour un projet gagnant-gagnant, comme le recommande cette dernière circulaire adressée à ses services déconcentrés. L'instruction pour validation de notre dossier se déroule dans une atmosphère particulièrement tendue, prend du retard et menace même d'être reconsidérée pendant que les programmes du syndicat de rivière Bassin-Rance-Célé, élargi au lot de médian, se déroulent imperturbablement, avec pour résultat le spectacle de la dévastation d'un réel potentiel de production économique et écologique au nom d'une continuité écologique qui n'a pourtant jamais cessé d'exister. Et pourtant, les collectivités locales et territoriales, les associations de pêche comme celle de l'environnement, sont avec nous, elles nous l'ont attesté par écrit. Pour aborder de plein pied le contexte actuel et s'émerger dans l'atmosphère qui baigne les rapports entre les pouvoirs publics et l'association de sauvegarde des moulins du Quercy en matière de continuité écologique et de transition énergétique, j'emprunterai volontiers la parole publique du président du conseil départemental du Lot, s'exprimant à la table ronde de notre dernier congrès national en Quercy. L'administration nous laisse le choix entre mourir ou crever. C'est dire le mépris dans lequel nous sommes tenus. Les services de la DDT n'ont jamais invité l'association des moulins comme organe représentatif local et qui existe pourtant depuis plusieurs dizaines d'années, à partager une lecture commune de la loi. Et si cela est fait pour la CLÉ, Commission locale de l'eau et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du CLÉ, par exemple, il n'a jamais été tenu compte des avis de notre président pour cause de quantité négligeable du potentiel et d'absence d'intérêt. C'est comme si le moindre des petits rues de son bassin et la Garonne elle-même à sa source ne participait pas par accumulation à la constitution de la Gironde dans son histoire atlantique. C'est comme si le trésor public national n'était pas l'addition des innombrables contributions fiscales des citoyens de notre pays. Un comble. Courant juin, et à des fins d'arbitrage, nous avons demandé à rencontrer les préfets de deux départements pour lettre par lettre avec accusé de réception. Aujourd'hui, début septembre, nous sommes toujours sans réponse, alors que le ministère lui-même leur a fait savoir qu'il convenait de rechercher l'apaisement des relations sur le terrain pour sortir par le haut de cette situation. Pire, dans le Lot, un nouvel appel d'offres émanant du syndicat de rivière pour une prochaine tranche de travaux précise dans le texte que la solution de l'effacement des ouvrages en limineur sans fonction avérée devra être privilégiée. Ce texte ne peut pas avoir été publié sans l'aval des services d'État concernés. Cette attitude non conforme aux recommandations du ministère est bien plus tranchante que dans certains autres départements de notre région, aggravée de son aveu même par une pression de notre DDT, Direction des Territoires, sur le service instructeur ADEME de notre projet de réveil des moulins, nous invite à réagir localement, à l'instar de notre fédération nationale et maintes autres associations en province. S'agissant de l'avenir d'un bien commun anthropique et naturel, intriqué, dont nous avons la charge au même titre que l'intérêt général qu'il représente, le patrimoine des moulins et de ses diverses composantes jusqu'au paysage des miroirs d'eau qu'il a produit ne peut être abîmé et irréversiblement démantelé sans concertation des populations qui s'en sont servies et veulent au moins le conserver, sinon lui rendre l'une ou l'autre des fonctions qu'il possédait déjà. J'ai prouvé précédemment que la théorie, ou plutôt le dogme, du rétablissement de la continuité de la circulation des poissons et des sédiments est parfaitement infondé. La seule chose qui puisse aujourd'hui nous être raisonnablement réclamée est l'entretien de nos établissements en limineur. Et pour tenter de réconcilier les parties en opposition sur cette analyse, deux solutions paraissent s'offrir à nous. profil bas, rendre possible la dissociation de la maîtrise d'ouvrage de l'installation de la passe à poissons, de la restauration entretien de la chaussée. Bon, j'aurais dû mettre une virgule là-dedans. Rendre possible la dissociation de la maîtrise d'ouvrage de l'installation de la passe à poissons, de la restauration entretien de la chaussée, sans en aliéner le potentiel énergétique, et uniquement par surverse de la valeur minimale du débit réservé. Ça paraît un peu compliqué comme ça, mais c'est très logique au fond. Ça veut dire simplement que chacun s'occupe de ses affaires. Exactement, c'est l'État qui décide de enlever les chaussées, qu'il le fasse à ses propres frais, à condition que bien sûr il le fasse avec l'accord du propriétaire, mais sans aliéner son bien et sans lui imposer des dépenses qu'il ne peut pas parfois faire lui-même. Et le laisser installer le projet. Profil haut, concourir à la remise en fonctionnement d'un maximum de sites garantissant leur entretien et leur participation à l'enjeu collectif repose et de relocalisation des productions, en l'occurrence majoritairement hydroélectriques, de qualité, à l'endroit exact où les gestionnaires de réseaux ne savent plus faire face à la pointe de la demande de consommation électrique du 19h l'hiver en bout du réseau basse tension. Ce point est particulièrement important, il faut bien l'assimiler. Mais il est un argument majeur dans nos positions. Cette dernière solution, bien plus prometteuse, permettrait aussi, au-delà d'une production très efficace et continue en saison hivernale, de fixer de l'emploi, de mobiliser des savoir-faire, de surveiller et prévenir les crues et les embâcles, de compléter le mix énergétique nécessaire à l'équilibre local, de créer des plus-values économiques patrimoniales et touristiques, tout en permettant de se proposer en tant que station-service d'une future mobilité écologique. Et pourquoi pas? Si l'autorité publique persévérait à faire fi des réactions du terrain et de ses représentants, je propose de poursuivre la progression de la résistance que nous avons d'ores et déjà installée et dont la prochaine étape peut être une conférence de presse organisée dans chaque département ou un site commun à laquelle l'administration serait invitée, en même temps que serait rédigé un rapport très circonstancié de la situation en cours adressé concomitamment à la présidente de la région Occitanie, au préfet de région et au ministère chargé de la transition écologique. De deux choses l'une, ou bien nous nous soumettons à un véritable diktat des pouvoirs publics qui tentent de s'imposer, aussi en Quercy, et nous perdrons irrémédiablement l'héritage dont nous avons la charge, anéantissant ainsi le potentiel qu'il représente, ou bien nous établissons à partir du débat d'aujourd'hui une stratégie de défense par la promotion de notre patrimoine qui s'avère le vrai fil d'Ariane depuis les balbutiements de la technologie jusqu'à ses derniers développements actuels et en devenir, en demeurant au plus près de son ancestrale et toujours respectueuse alliance avec les forces de la nature dans le plus pédagogique des attelages. Nous sommes là pour en parler et éventuellement en décider. Et j'ajoute en final, mais c'est très important, je rappellerai ça. Je souhaiterais qu'un temps soit consacré, nous souhaiterions, qu'un temps soit consacré à la recherche de 3 ou 4 candidatures de moulins intéressés par une étude d'équipement à destination de production hydroélectrique dans le cadre de notre dossier commun du réveil des moulins à Quercy, dans le but d'abonder la liste initiale et mieux l'équilibrer dans chaque département. Merci beaucoup.
Je vais vous demander encore 10 minutes de patience. Vous venez d'avoir 2 présentations large, intelligente, qui montre d'un côté ce qu'on peut ramasser par la recherche documentaire, ce qu'a fait Dominique Perchet sur la valeur patrimoniale des moulins dans notre région et plus largement. Et l'association vous a fait la démonstration de ce que c'est qu'une démarche activiste. Ils sont très actifs, ils entreprennent, ils veulent le réveil des moulins. Il y a des projets, des appels à projets auxquels ils veulent participer. Et il faut entendre ce qui a été dit sur le chemin qu'ils ont suivi. Et pour nous, à Saint-Antonin, où on était simplement sur notre petit problème de Roumégousse, ça nous a beaucoup éclairé d'entendre et de rencontrer ces partenaires-là. pensez aussi que l'association des Moulins du Quercy, c'est une association dans une fédération qui est nationale, et qui a d'ailleurs d'autres fédérations. C'est donc une démarche qui est nationale. Il faut regarder comment les choses se passent aussi au plan national, parce que c'est maintenant là, en réalité, que ce débat est porté. Je voudrais quand même, pour finir, revenir à Roumégousse, puisque beaucoup d'entre nous ici sommes de Saint-Antonin et connaissons surtout la question de Roumégousse, et parce qu'il y a aussi une actualité de ce côté-là. Pourquoi Roumégousse ? Pourquoi on s'est intéressé à Roumégousse ? Pour deux raisons. La première, c'est que cette chaussée commande, vous le savez, le niveau d'eau à Saint-Antonin, depuis le gravier en amont jusqu'à Roumégousse en aval, et c'est le miroir d'eau qui n'est pas pour rien dans le classement du site. C'est l'enjeu patrimonial. Nous savons, et tout à l'heure les photos qu'on a vues le montrent, que l'effacement ou l'échancrure de la chaussée change ou changerait l'aspect de l'Aveyron devant Saint-Antonin. Et on le sait depuis que la crue de 1930 a partiellement détruit cette chaussée. L'Aveyron était devenu une petite rivière et non plus le miroir d'eau que nous avons. Et l'autre raison, c'est qu'il y a aussi à Saint-Antonin, à la chaussée de Roumégousse, les restes du moulin qui a été mis en exploitation en 1499, vous voyez l'ancienneté. Il n'y manque pour produire de l'électricité qu'à installer des nouveaux rodets. Les rodets, c'est les roues qui tournent et qui font marcher ensuite une turbine et une turbine. On peut aussi mettre en place une hydrolienne. Notre association, les Amis du Vieux Saint-Antonin, a pu convaincre au moins deux entreprises spécialisées d'expertiser le site et de fournir des devis chiffrés, précis, à la commune propriétaire qui les détient depuis le début de l'année. Voilà pourquoi Roumégousse, au fond. Mais comment se présente le débat aujourd'hui ? Et d'abord, qui est dans le débat ? Pour résumer, je dirais qu'il y a le propriétaire du moulin, à Roumégousse, c'est la commune de Saint-Antonin. Il y a évidemment le gouvernement et son administration, précisément dans notre région, c'est l'agence de l'eau Adour-Garonne, et les services de la préfecture du département du Tarn-et-Garonne, ce qu'on appelle la DDT. Et ces services poursuivent la politique de continuité écologique dont on vous a parlé, en faisant pression sur les propriétaires de moulins et de chaussées, y compris par la possibilité de subvention. Et ensuite, les associations comme la nôtre, qui soulèvent la question et font les démarches pour aider les propriétaires. Et puis enfin, il faut y penser, il y a ceux qui font les lois, les parlementaires. Et l'histoire montre qu'ils ne sont pas sourds aux demandes des propriétaires et des associations. C'est vrai d'ailleurs surtout pour le Sénat, qui est proche des élus locaux. Ça, c'est pour décrire les protagonistes du débat. Ensuite, quels sont les aspects de ce débat ? Il y a un aspect juridique et un aspect politique. Je vais être un peu plus précis là. Sur l'aspect juridique, le droit qui gouverne cette matière est dans le Code de l'environnement. Là, on trouve des lois, des décrets, des circulaires, et je mentionne ces différents textes parce qu'il y a entre eux une hiérarchie et que dans ce sujet juridique, la hiérarchie des normes, c'est important. Pour résumer la situation juridique aujourd'hui, il y a la loi de 2006, dont on a déjà parlé, qui donne un article dans le Code de l'environnement, qui donne à l'administration, précisément au préfet de région, le pouvoir d'imposer aux propriétaires concernés la continuité écologique et ses règles. Quelles rivières il faut traiter ? Quelles chaussées, quels aménagements, effacements, échancrures, passe à poisson. Ça, c'est un premier aspect de la loi. Mais il y a dans la loi aussi une exonération qui a été introduite par une loi du 24 février 2017, c'est pas très vieux, pour les moulins existants, ceux qui sont fondés en titre, démarche qui est ouverte à tous les moulins historiques, et équipés pour produire de l'électricité ou qui pourraient l'être dans l'avenir. C'est très important cette précision. L'administration, celle de la DDT dont j'ai parlé, utilise pour faire bouger les propriétaires dans le sens qu'elle poursuit le premier de ses textes, le premier de ses articles, et ignore le second. Mais elle sent la fragilité de sa politique parce qu'il y a des résistances, parce qu'il y a cette deuxième loi. Et elle fait pression sur les propriétaires par ses subventions, celles de l'agence de l'eau, qui sont d'ailleurs plus favorables aux échancrures qu'aux passes à poissons. Vous me suivez, j'espère. Alors même que cette administration avait le pouvoir, dès le départ, d'agir par contrainte et même d'exécuter d'office, peut-être, les travaux qu'elle prescrivait. Mais elle a pris une démarche où elle voulait surtout convaincre. Et aujourd'hui, devant les résistances, elle essaie d'aller plus loin en essayant de contourner l'exonération légale dont j'ai parlé, en sortant des textes, un décret du 3 août dernier, contre les obstacles à la continuité des rivières, comme les chaussées, qui ne pourraient pas, dit-elle, être équipées pour produire de l'électricité. Je ne détaille pas cette dispute parce que les juristes sont familiers de ces batailles. On a des batailles comme ça dans tous les domaines. Mais ce qu'il faut se dire dans cette bataille, c'est qu'à la fin, l'administration et même ses décrets doivent se soumettre à la loi qui est la norme supérieure. Cela peut passer, d'ailleurs, par l'action contentieuse si l'administration nous refusait le bénéfice de la loi de 2017. Ça, c'est pour l'aspect juridique. Mais évidemment, il faut aborder l'aspect politique aussi, parce que c'est ça qui est le contexte déterminant du droit qui est adopté et mis en œuvre. Pourquoi il y a un aspect politique? Je dirais que c'est d'abord la mobilisation des propriétaires, des associations, des élus locaux, qui peut faire bouger les lois, et qui a d'ailleurs obtenu la loi de 2017 dont j'ai parlé, qui exonère les boulins qui sont équipés pour l'électricité. Ensuite, c'est l'alliance ici, dans cette région, de trois communes propriétaires de moulins sur l'Aveyron, Saint-Antonin, Casals et Varin, qui a pu freiner l'ardeur de l'administration départementale et qui a abouti à étaler pour celle-ci, dans le temps, son programme d'aménagement. On a mis Casals en 2020, c'est bientôt, mais Saint-Antonin en 2022. Bref, on sent bien que la pression qui s'exerce sur le terrain se retrouve dans la politique menée par l'administration. Et puis toujours pour parler de rapport de force politique, c'est plus récemment la démarche entreprise à notre demande et à celle des trois communes que je viens de citer, par Valérie Rabault, notre députée, par un courrier au président de la République demandant que l'administration cesse d'ignorer la loi de 2017. On en est venu là dans un courrier qu'elle a fait le 11 juin dernier. Ce courrier, je le tiens d'ailleurs à votre disposition. Ça donne un peu l'état du dossier. Le dernier état de la question, pour finir. Il a été évoqué ce matin par le maire de Saint-Antonin, Gérard Hagan, devant l'Assemblée Générale de l'Association des Moulins du Quercy. Il a évoqué la venue à Saint-Antonin d'une secrétaire d'État, Emmanuelle Vargon, qui est dans le ministère compétent pour notre sujet. Elle est venue le 25 août, elle est allée à Romégousse, et de ce qu'elle a dit, nous avons tiré deux choses. D'une part, que si les études montrent des scénarios faisant baisser le niveau d'eau, on ne retiendra pas ces scénarios. C'était une façon de nous encourager à aller dans le sens de l'administration. Rassurez-vous, si jamais les scénarios qui seront étudiés par elle baissent le niveau d'eau à Saint-Antonin, on ne fera rien. C'est une déclaration ministérielle, ce n'est pas le droit, ce n'est pas la loi. Et ensuite, sur la continuité écologique et la production d'énergie renouvelable, qui sont les deux aspects de ce dossier, sa déclaration, c'était que ces deux éléments sont complémentaires et elle nous a encouragés à continuer à Romégousse notre projet d'énergie hydroélectrique. Voilà, ça c'est l'état du dossier aujourd'hui. Par rapport à cela, nous, l'association des amis du Vieux Saint-Antonin, nous sommes prudents. Avant d'engager les études préalables prescrites par l'administration, avec un cahier des charges qui sera validé seulement par elle, comment s'y fier? Il faut que la commune mène le projet d'équipement hydroélectrique, qu'elle demande la reconnaissance du titre à exploiter l'énergie sur la chaussée de Romégousse et son moulin. Il faut déposer une déclaration de ce projet et vérifier que l'administration n'y fait pas opposition. C'est ça qui est devant nous. Et notre position, je parle au pluriel, nous, la commune, les associations, nous marchons de concert sur ce sujet, alors seulement notre position sera assez solide pour accepter éventuellement les études pour la continuité écologique et atteindre cette complémentarité que nous promet la ministre. Voilà, je m'arrête là. Vous comprenez que la réunion d'aujourd'hui donne du poids à cette démarche. Merci et la parole est à vous.
Le sujet qui est en cours, c'est donc le moulin de la chaussée de Romégousse. La chaussée de Romégousse appartient effectivement à la commune, comme ça a été dit tout à l'heure. Je ne vais pas tout reprendre, mais les enjeux qui sont en cause sont, d'une part, l'enjeu patrimonial, ça a été expliqué, c'est essentiellement l'enjeu du miroir d'eau par rapport à la place des moines. Deuxième enjeu, c'est l'enjeu environnemental, donc laisser passer les sédiments et les poissons, c'est le souci de l'État et de l'Europe. Troisième enjeu, c'est un enjeu énergétique, c'est-à-dire production d'électricité qui est possible avec une turbine sur cette chaussée. Il faut savoir que le potentiel est quand même très minime, et on est plus à ce niveau-là dans un enjeu, comment dire, pas idéologique, mais enfin bon, démonstratif qu'autre chose. Voilà. Ces trois enjeux peuvent être analysés sous trois aspects, l'aspect juridique, l'aspect technique et l'aspect financier. Sur l'aspect juridique, il a été expliqué qu'effectivement, il y a eu une loi en 2006, il y a eu d'autres lois qui sont venues depuis, que les services de l'État eux-mêmes s'embrouillent un peu dans tout ça, selon les départements disent une chose ou une autre, et que rien n'est clair et rien n'est simple à ce niveau-là. Sous l'aspect juridique, il y a également les droits d'eau. Nous sommes sur cette chaussée depuis quelque temps déjà, dans la démarche de recueillir les droits fondés en titre, les droits pour pouvoir faire tourner une turbine. Normalement, ça devrait bientôt être conclu. Sur l'aspect technique, pour respecter la loi, effectivement, il y a différentes possibilités. Une étude pourrait montrer quelles sont les différentes techniques. La technique la plus simple, c'est de raser la chaussée. À ce moment-là, les sédiments et les poissons circulent librement et les services de l'État, l'agence de l'eau, nous financent 80 ou 100%. Ensuite, d'autres différents procédés qui permettent de maintenir plus ou moins le niveau d'eau avec des paliers et en laissant passer donc les poissons et les sédiments. Deuxième aspect technique, c'est l'installation des turbines. Il a été dit que la société a fait des études, c'est exact. Nous avons à Saint-Antonin également un artisan qui entretient les turbines sur l'ensemble de la région Midi-Pyrénées, Occitanie, et qui nous fait aussi des propositions pour installer une turbine, je vous dirais, plus dans un esprit documentaire que dans un esprit réellement de économique. Dernier aspect, c'est l'aspect financier, c'est-à-dire que si on fait des travaux d'aménagement de cette chaussée, ça coûte cher, et les financements octroyés par l'agence de l'eau sont plus ou moins élevés selon la nature des travaux que l'on fait. Où en est-on aujourd'hui? Nous ne sommes pas tout seuls dans cette problématique. Nous sommes avec la commune de Varin, la commune de Fenayrols, nous avons, et la commune de Montauban, nous avons 5 chaussées. La commune de Montauban a traité ce problème tout seul. Les 3 autres communes, nous nous sommes rencontrés, on nous demandait, les services de l'État et plus, nous demandaient de faire une étude pour voir quelles étaient les possibilités et où on pouvait arriver. Nous avons décidé, les 3 communes ensemble, de sursoir à cette étude en attendant des réponses à nos questions précises sur l'interprétation de la loi. Nous sommes toujours dans cette attente. Un point nouveau, c'est la venue, il y a 10 jours, de la ministre, Madame Wargon, ministre dans le domaine de l'environnement, je crois, hein. Donc, Madame la ministre, renseignée par les services de la DDT et de la préfecture, connaissait bien le sujet. Elle nous a dit ceci. Pour elle, il est nécessaire de procéder aux études qui, une fois réalisées, permettront de connaître l'impact sur les niveaux d'eau de la chaussée de Romégus. Elle a ajouté, si les conclusions s'avéraient défavorables au maintien du niveau d'étiage, aucun travaux ne serait engagé. C'est-à-dire, elle s'engage à ce que si l'étude montre que le niveau d'eau va baisser, les services de l'État et l'État lui-même ne demandera pas à ce qu'il n'y ait aucun travaux de réaliser qui entraînerait une baisse du niveau d'eau. elle est en train d'envoyer un courrier au préfet dans ce sens pour matérialiser concrètement cette position. En ce qui concerne, ça a été dit, en ce qui concerne les équipements hydroélectriques, c'est-à-dire les turbines, les possibilités de turbines, elle a encouragé effectivement à continuer ses études dans un esprit de complémentarité entre l'enjeu environnemental et l'enjeu économique. Alors, faut-il s'opposer dès lors à toute solution qui irait dans le sens d'une étude, compte tenu des assurances qu'a proférées la ministre? Nous n'avons pas encore tranché, puisque c'est tout récent, nous en discutons au sein du conseil municipal, mais si effectivement il n'y avait pas de conséquences sur le niveau d'eau, s'opposer à ces études reviendrait à ajouter un autre combat, en quelque sorte un combat militantiste, qui n'est pas forcément celui de la commune. Donc, aujourd'hui, nous posons la question, faut-il vraiment refuser que toute étude soit réalisée ? Mais bien évidemment, si cela se fait, c'est en participant activement à la rédaction et au contenu du cahier des charges de cette étude qui doit comprendre les trois enjeux dont j'ai parlé, l'enjeu patrimonial, l'enjeu environnemental, l'enjeu économique, que ces trois enjeux soient bien intégrés à l'étude et que dans ces conditions, une étude nous paraîtrait envisageable. Je vous remercie.
Serge Despéro, puis André Dravignan.
Merci Thierry. Très rapidement, ça c'est de mémoire, il y a peut-être des personnes ici présentes qui connaissent plus finement ce que je veux rajouter à ce que monsieur le représentant du maire de Saint-Antonin a dit tout à l'heure concernant une production faible pour la chaussée de Roumégous si elle est équipée. Un jugement en appel récent concernant le moulin du bœuf dit « La notion de production infime et négligeable ne peut être retenue par la Cour. » Ce qui veut dire, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez là, l'accumulation des faibles quantités est absolument considérable. C'est très exactement une grosse partie du projet que nous portons. C'est rassembler le maximum d'usagers, de propriétaires et de sites pour lever en fait le plus grand nombre d'acteurs pour, à l'endroit exact où ça fait besoin, produire de l'élec en bout de justement des besoins effectifs qui sont les zones de basse tension, etc., que les gestionnaires de réseau ne peuvent pas gérer. Vous le savez. Donc, c'est une raison qui n'est pas retenable, ça. C'est vrai. Alors, ensuite, je dirais, pour ce qui concerne les études, moi, je fais une proposition. Elle va être, à soumettre, bien entendu, à nos vraies possibilités. Mais, en fait, on a déjà travaillé sur ce sujet. On peut être associé, Association des Moulins du Quercy, peut être associé à l'étude. Moi, je dirais, elle doit être associée à l'étude. Et comme nous sommes reliés, Société des Amis du Vieux-Saint-Antonin et les Moulins du Quercy, je pense qu'on aurait aussi la parole en fait, du local et de ceux qui se sont penchés sur les problématiques liées à ces choses-là, donc, et la production, mais aussi le patrimoine, le paysage, etc.
Non, peut-être ne réponds pas tout de suite, Denis, parce qu'il y aura beaucoup de questions qui vont s'être adressées à toi. Je préfère ramasser les questions.
C'est la rentabilité qui serait vraiment au niveau de zéro, puisque pour revenir, le retour sur investissement mettrait plus de 20 ans, 25 ans avant de...
Je fais juste écho à des avis partagés par un certain nombre de voisins et moi-même, qui sont, comme tout le monde, pas tellement dans le vif du sujet du problème. Néanmoins, c'est un problème assez logique. Hein. Bon, on comprend, il y a des choses qui doivent passer, comme les poissons. Et je suis moi-même un ancien constructeur de barrages, donc je connais bien surtout les microcentrales, d'ailleurs. Mais ça, c'est épisodique. Le problème technique est simple. Bon, et visiblement, tout le monde, chacun ici, voit bien que cette directive, une espèce de coup de sabre complètement fou. Je ne connais pas le politicien qui a créé ce truc-là, mais enfin, bon, peu importe, ça ne m'intéresse pas. En ce qui concerne ce problème, monsieur le maire, ici, autour de moi, personne n'a compris dans votre propos, ou pas bien compris dans votre propos, de quoi il s'agissait. On ne sait pas très bien. Vous avez eu l'air de dire à la fin que vous vous posiez la question s'il fallait faire une étude ou pas. Vu le problème qu'il y a, il me semble que la seule chose à faire, c'est de faire une étude. Et Thierry semble avoir, ainsi que le président de ce groupement-là, vous avez l'air tout à fait d'accord pour partager cette étude, peut-être même y trouver d'autres gens qui y adhéraient. Probablement d'ailleurs, il y a d'autres groupements du même genre en France qu'on peut trouver dans les départements limitrophes ou voisins, en Pyrénées par exemple, où il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et donc on peut certainement faire une étude qui serve de modèle en quelque sorte aux maires et aux acteurs de ce secteur. Et aussi, je n'ai pas bien compris quel est l'impact que dit cette personne ministre de l'écologie. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On n'a pas bien compris. Elle avait l'air de dire, d'après ce que vous dites, que si le moindre que l'on peut imaginer, le niveau du miroir d'eau, pour parler de ce que tout le monde connaît, change, elle sera contre. Mais ça veut dire quoi? Si on fait une échancrure, par exemple, supposons qu'on fasse une étude et que nous nous débrouillons tellement mal que l'administration oblige à faire une échancrure, ce qu'on appelle une échancrure, c'est en fait un trou dans un barrage, hein. C'est radical. Qu'est-ce qui se passera? Il est évident que l'eau va baisser. Il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études pour ça. Hein. Donc je ne vois pas très bien. Elle est en train de s'engager à de toute façon empêcher le miroir d'eau de baisser, c'est ça que ça veut dire? Quoi qu'on fasse dans un barrage de cette dimension, dès qu'on fait. On peut faire une passe à poisson, parce que ça, c'est de temps en temps. On peut faire des chasses, ça c'est bien connu, même dans les grands barrages, il y en a. Une chasse, ça veut dire que c'est comme une chasse d'eau. De temps en temps, on fait un gros courant et la boue s'en va, n'est-ce pas, les alluvions. Dans l'autre sens, c'est les poissons qui remontent. Et pour le reste, je ne vois pas très bien. Pour le peu qu'il y a une passe ou une échancrure, il y a baisse du niveau d'eau et donc cette personne est engagée.
Présentez-vous. Oui, bonjour. Donc, je suis Damien Lenoël, je suis ingénieur en énergie renouvelable, spécialisé dans l'énergie hydroélectrique, et je travaille notamment avec l'association Moulin du Quercy sur ces problématiques-là. Et je voulais revenir sur cette notion de faible retour sur investissement, faible production, production négligeable, etc. Je voudrais juste faire une petite mise au point scientifique, mais très simple. C'est comment on calcule la puissance d'une installation hydroélectrique. Et vous allez voir, c'est très très simple. Donc la formule, c'est pour obtenir la puissance en kilowatts, c'est 10 fois la hauteur de chute fois le débit en mètres cubes par seconde.
Bon, ouais, d'accord, on va pas discuter ça. Allez, disons
bon,
9.
Alors, si on complique le calcul, on fait fois 8. Et on aura une valeur un peu plus réaliste. Pour être tout à fait clair, la puissance brute, c'est 9,81. Si on veut simplifier le calcul, on prend 10. Si on veut prendre en compte un peu le rendement de l'installation, on prend 8 ou voire 7, si on est un petit peu pessimiste. Donc, on a la chance d'être sur la rivière Aveyron, que je connais encore pas très bien, mais que j'estime qu'elle a des débits assez importants. Alors, on dit 36.
Ce que voulait dire Denis, c'est qu'on a regardé, et compte tenu du site du moulin, il ne faut pas détruire la bâtisse, on a regardé avec Denis où on mettait des rouées à la place et on faisait 1-2 kW. Et j'ai demandé une étude auprès d'une société allemande pour mettre une roue à aube en petit diamètre, mais très large, qui rentrerait entièrement dans le moulin. Et on serait aux alentours de 15 kW. Voilà ce que voulait dire Denis.
D'accord. Alors, je voudrais juste finir le calcul. Si vous me suivez toujours, 10 fois la hauteur de chute à Romégousse, 60 cm. Donc 10 fois 0,6, ça fait 6. Merci. Fois le module. Alors, ok, on prend le débit réservé, dixième du module, donc on n'a plus que 27 mètres cubes. Mais je prends une puissance qui est accessible au niveau du site. Le module, c'est une moyenne, effectivement. Je finis, s'il vous plaît, je finis. Quelqu'un peut me faire le calcul ? On prend 8, on est assez pessimiste. 8 fois 0,6 fois 30, on a 48 kilowatts. C'est une installation en puissance brute. Elle fait 48 kW. Et 48 kW, c'est absolument pas négligeable. Après, on peut discuter sur les moyens, le bâtiment, tout ça. Il faut aussi prendre en compte que les turbines, les technologies s'améliorent. Il y a des turbines qui exploitent de forts débits, même sur de faibles chutes. Je pense notamment à la turbine VLH, Very Low Head, très basse chute. Et... Il y a de très belles choses à faire et il faut pas se brider sur ce type de projet. Merci.
Bonjour à tous. Alors moi je vais vous parler de la secrétaire d'État. Monsieur, vous appartenez à la FFAM, c'est ça?
D'accord. Et vous êtes qui, madame?
Madame Vergne, je vous ai envoyé des documents. Je fais partie de l'association de défense des moulins et des cours d'eau. Présidé par M. Farge, nous avons une assemblée générale la semaine prochaine à Monteil dans l'Aveyron. Vous êtes invité, cordialement invité. Je vous l'ai envoyé d'ailleurs. Non, vous ne l'avez pas reçu?
Peut-être, mais on reviendra.
Je vous en enverrai une autre. Bon, alors moi j'ai rencontré Emmanuel Vargon la semaine dernière dans l'Aveyron, puisqu'elle a fait le tour. Alors elle n'a pas du tout dit ce que j'ai entendu là, hein, parce que moi je lui ai posé une question. Elle a été pilotée par la Fédération de pêche de l'Aveyron, qui l'a amené dans une rivière voir un lieu magnifique où l'on venait de démolir une chaussée. Je suis allée avant-hier faire des photos. Donc c'était l'exemple à suivre. Ils ont démoli la chaussée. On voit que les points d'ancrage qui restent sur les côtés. On voit quelques bois. Il n'y a absolument plus d'eau dans la rivière. Alors, juste par rapport, je comprends tout l'ensemble des choses, mais juste par rapport au réchauffement climatique, on nous parle de faire des réserves d'eau. Les premières réserves d'eau, elles sont dans les biefs des moulins. Donc pour moi, la première des choses à faire, c'est de conserver les biefs. Ça, c'est une raison essentielle. Ensuite, pardon? Alors, ça constitue des zones humides. Enfin, il y a tout un argumentaire qu'on peut... Voilà, mais le plan climat, moi je vous signale que dans l'Aveyron, puisque nous on y est allés, le plan climat, tout ce qui est hydraulique, on n'en a pas parlé. Parce que les obstacles sont tellement importants qu'on l'a gommé. Alors moi, j'ai posé la question à cette ministre, justement par rapport au décret du 3 août, ce décret du 3 août 2019 qui cherche à annuler, je peux vous l'envoyer, on donnera, qui cherche à annuler les lois précédentes ainsi que la jurisprudence. C'est-à-dire qu'ils veulent contrecarrer les lois. Je lui ai posé la question. Elle a répondu que c'était une loi parfaitement légale qui avait été discutée par France Nature Environnement et par la Commission nationale de l'eau. Et la Commission nationale de l'eau, les fédérations de moulins FFAM et FDMF, elles ont été complètement ignorées. On les a traitées comme rien. C'est-à-dire que les arguments qui ont été donnés par les fédérations... Excusez-moi de jeter un peu le tableau noir, là, mais les fédérations de moulins ont été complètement... niés. Et ils ont pris cette loi malgré tout ce qui s'est passé dans les commissions. La Commission nationale de l'eau, ça a été une honte. Les moulins, ils ont été écartés. Par exemple, du style, il fallait donner, par exemple, un document à 16h. Le document arrivait à 16h05. Il était irrecevable. Ils ont multiplié les choses. Ensuite, moi, je lui ai posé la question si la démolition des chaussées pouvait garantir le bon état physico-chimique des eaux d'eau de la chose. Alors elle a répondu la chose suivante. Elle a dit, de toute façon, tout ce qui ne sert à rien, il faut le démolir. Et on lui avait montré, écoutez, je ne l'ai pas inventé, on était dans une assemblée, donc on lui a montré une chaussée démolie comme un modèle à suivre. Elle a dit, c'était c'est le moulin de Valette, là-haut, sur le Lézère. Je suis allée faire des photos avant-hier. Je peux vous les envoyer, c'est catastrophique. Et ensuite, elle a dit, ça, c'est un modèle à suivre. Tout ce qui ne sert à rien, il faut le démolir. Alors, il ne faut pas faire confiance au discours. Alors après... Il marche encore ? Bon, alors ensuite, moi, il y a pas mal de gens qui se battent partout en France. Hein, il n'y a pas que à Saint-Antonin. Alors, la chose, je vais vous dire, c'est que dans certaines régions, comme en Normandie, ils ont de l'avance. Nous, on est en retard. C'est-à-dire que dans les plans de mise aux normes de continuité écologique, nous, on était les derniers, si vous voulez, à Jour-Garonne. Donc, on a un avantage, c'est qu'on a vu ce qui se passait en haut. En Normandie, ils en ont démoli 20 000 chaussées. Ils sont en train de mettre 50 millions d'euros pour démolir un moulin sur la Célune, un moulin hydroélectrique qui produit de l'énergie, une centrale hydroélectrique, on est en train de le démolir. 50 millions d'euros. Et alors, pour vous dire, alors moi-même, j'ai un moulin à la Guépie, donc je produis un peu d'énergie, il est équipé. Au-dessus, il y a un moulin, qui est le moulin de Saint-Cambraire, qui est au-dessus de la Guépie. Ils ont reçu... J'ai eu un coup de téléphone il y a 3 jours. Un monsieur que j'avais rencontré, à qui j'avais donné l'historique de son moulin, en lui disant, monsieur, votre moulin, il peut être fondé en titre. Voilà l'historique. Il y a 5 ans, il m'a appelé, il m'a dit, on a eu la visite du DDT avec le gars de l'AFB, Agence française de la biodiversité. Eux, ils ont un moulin où il y a une brèche dans le chaussée. Alors, ils lui ont dit, voilà, monsieur, vous nous faites cadeau, écoutez-moi bien, vous nous faites cadeau de vos droits d'eau. Nous vous subventionnons à 80% l'aménagement de votre chaussée. Nous allons faire une brèche de 20 mètres. Donc, faisons une brèche de 20 mètres. Il ne reste plus rien. Moi, j'ai dit à ce monsieur, vous allez leur répondre, vous allez essayer. Après, ils feront comme ils voudront. Hein. Je leur ai dit qu'il y avait des jurisprudences, qu'il y a des avocats qui sont spécialisés là-dedans et qui travaillent là-dedans. En particulier, maître Jean-François Rémy, que M. Bosque ici connaît très bien, qui est du barreau de Nancy. Et je lui ai dit, votre échancrure, vous la transformez en échelle à poisson naturel et vous demandez qu'on retrouve la cote légale de la chaussée. Vous êtes d'accord? Et je lui ai dit, et j'ai dit après, pourquoi ce moulin, vous n'installez pas quelque chose, ne serait-ce que pour chauffer? Parce qu'en fait, ce sont les moulins qui produisent quelque chose qui sont un peu plus protégés. Donc après, le côté technique, il y a des prestataires qui peuvent donner... Il y a plein de solutions, si vous voulez. Les hydroliennes, j'ai entendu parler d'hydroliennes, moi, j'y crois pas. Parce que les eaux sont trop sales, c'est trop compliqué. C'est trop léger, ça marche pas.
Roland Agrège, donc président des Moulins du Quercy, et ancien... Et je connais bien M. Farge. On a de très bonnes relations. Et comme nous, il se bat pour défendre les moulins. Voilà, bon. C'était pour répondre un peu à vous, monsieur. Là, vous avez fait une interrogation par rapport à... Mais qui avait mis en place ce dispositif, donc contre qui a mis en place cette réglementation, ces lois? Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne là-haut. Et donc, vous avez parlé de FNE, vous avez parlé de tout cela. En fait, au ministère de l'Environnement, c'est le service de la biodiversité, piloté chef de service Claire Cécile Garnier, qui veut la mort de tous les moulins. Il faut savoir que, je m'excuse, mais je suis un peu direct, mais bon, on la pratique depuis longtemps, et chaque fois, on se heurte à un mur, et pour ça qu'on n'arrive pas. On va dans toutes les réunions au niveau national, avec les autres fédérations, avec les autres syndicats, et on n'a pas de résultat. On a été promené pendant 8 mois avec des réunions avec le Conseil national de l'eau, piloté par Jean Launay, ancien député, et assez favorable aux moulins, puisque Miqueux et Claude Miqueux, voilà. Et donc, on n'a eu aucun résultat, absolument rien. Mais il faut savoir que FNE est le conseil du service de la biodiversité, et FNE est financé par le ministère de l'Environnement. Voilà. Donc, voilà, on est face à des ayatollahs de l'écologie, un peu, et on se trouve face aussi à ne pas être entendu ni compris au niveau du ministère. On a beaucoup de mal. Et là, il y a un gros blocage. Je me permets de le dire très cru et très franchement, mais je crois que c'est la réalité de ceux qui ont éprouvé ça dans les négociations avec le ministère de l'Environnement. On continue, mais on a beaucoup de mal. Voilà. Donc, comment faire pour passer au-delà? J'aimerais bien que la ministre ou la secrétaire d'État se rende compte de ce qui se passe dans son ministère. Voilà. Voilà. Excusez-moi, mais je voulais apporter cette précision. Voilà.
Oui, Alain Bosque, j'ai un moulin donc sur l'Aveyron, pas très loin de Varennes. Je suis côté Tarn, excusez-moi, c'est pareil, mais on est côté Tarn, toujours sur l'Aveyron. Alors, juste une précision par rapport aux subventions Adour-Garonne. Il faut savoir qu'il n'y a pas de subvention Adour-Garonne en ce qui concerne une production hydroélectrique sur un site neuf.
C'est le contraire.
Surtout, s'il y en avait une, je vous demande de m'en informer très rapidement. Je clôt surtout en H16. Excusez-moi, c'est un peu technique. Alors bon, je suis en train de rééquiper un moulin. Mon parcours du combattant n'a duré que 12 ans. Je pense que je suis passé un peu partout. Alors, ce que j'entends, là, j'entends quoi? Alors, il y a un terme que je voudrais malheureusement pas prononcer, mais que je suis obligé, on appelle ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, on appelle ça un peu de l'enfumage. Aujourd'hui, le problème de l'écologie, je crois que ici tous, nous sommes intérieurement empreints d'écologie. Aujourd'hui, les services de l'écologie s'apparentent plutôt à de l'idéologie. Vous avez parlé de qui fait quoi et qui fait qui et qui alimente les robinets. Alors, malheureusement, pardon, il n'y a pas d'eau. Qui alimente quoi? C'est très grave ce qui se passe. Les révolutionnaires, la nuit du 4 août en 89, ils ont fait quoi? Ils ont... Non, mais vous allez voir mon point de chute. Ils ont supprimé les privilèges. Il n'y a qu'une chose qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas touché au moulin. Pourquoi? Parce que le lendemain, il y aurait eu la famine. Aujourd'hui, on en est où? Alors, vous m'excuserez, je vais parler deux mots en patois, vous traduirez pour ceux qui ne connaissent pas. Qu'est-ce qui nous manque? Aujourd'hui, il nous manque l'oubiaïs. Et nous avons affaire à des sadouls. Excusez-moi, pour les... C'est pas vulgaire, ce n'est surtout pas vulgaire. C'est pas vulgaire, mais je crois que ça image bien et ça résume un petit peu tout ça. Voilà. Alors après, les calculs d'énergie, de qui peut produire quoi, à partir du moment où il y a une chute, oui, il y a une production possible. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Même si elle est minime, les petits ruisseaux font les grandes rivières, c'est sûr. Il faut savoir une chose, c'est que demain, l'hydroélectricité est supprimée. Quand on appuiera sur le bouton de notre éclairage, là, le réseau national, il n'y aura plus rien. Ça, c'est M. Trogneux, la personne qui fait le grand dispatch au niveau d'EDF, qui nous avait expliqué ça à Arles l'an dernier, quand il y avait eu l'Assemblée générale de France Hydro. S'il n'y avait pas, on parle bien sûr un peu plus de grande hydroélectricité, il est clair. S'il n'y a plus d'hydroélectricité, il n'y a plus d'électricité du tout sur le réseau. Ça, il ne faut jamais le perdre de vue.
On n'est pas tout à fait d'accord sur le nombre des moulins, mais on va dire qu'il y a 100 000 moulins en France, on a l'équipe 30%, on a la valeur de 2 réacteurs nucléaires. Et c'est une production qui n'est pas intermittente, c'est-à-dire surtout nuit et jour. Et ensuite, quand on dit « hein », et surtout au bon moment. Et troisième chose qu'il faut dire, c'est que les gens vous disent « c'est insignifiant ». Mais attendez, si on prend un linéaire de cours d'eau, on va prendre de la Guépie à Saint-Antonin, 5, 6, 7, 8, il y a peut-être 10 ou 12 chaussées. On fait 100 kilos, ça fait 1200 kWh, c'est l'équivalent d'une très grosse centrale hydroélectrique.
Excusez-moi, il y a 10 000 moulins, chaussées de moulins qui ont été détruites en France aujourd'hui.
Juste une précision, parce qu'on a parlé de Roumégousse et on a parlé de la chaussée de Roumégousse. Je rappelle qu'à Roumégousse, il y a deux moulins. Il y a qui peut être aussi équipé, qui a produit de l'énergie. Donc il ne faut pas oublier qu'en faisant des travaux, on modifie l'équilibre éventuellement de deux installations. La deuxième chose que je veux dire, vous avez parlé des problématiques administratives. Alors pour rester aussi dans le cadre du territoire ici, se prépare au niveau du pays Midi-Crécy le SCOT, donc le schéma cohérence territoriale qui va gérer ensuite les PLU, les PLUI. Dans le SCOT, l'État a fait ce qu'on appelle le porté à connaissance Et dans la ligne qui parle d'énergie, le porter à connaissance ne prend que l'article L, etc., 217, c'est celui qui prévoit la continuité écologique. Il n'y a rien sur l'article 218, dont parlait 214-18, qui dit que les moulins producteurs d'énergie, évidemment, sont exonérés, etc. Donc, ça n'y est pas, et il va falloir se battre pour faire changer cela, parce que une fois que c'est écrit, c'est presque la Bible. Comme vous l'avez dit, on est dans un combat idéologique, hein, on ne parle plus de raison, on est dans de l'idéologie pure. Et puis, au niveau du plan climat et énergie territoriale, donc je l'ai dit tout à l'heure, et monsieur le maire de Varin était là, président de la communauté de communes, il y a des projections qui sont faites pour l'utilisation de l'hydroélectricité dans la communauté de communes, et je n'ai toujours pas compris pourquoi de 2020 à 2050, les projections faites par le bureau d'études, qui ne sont simplement pas justifiées nulle part, mais il faut leur demander, vont être divisées par 3. Donc, compte tenu du nombre de moulins qu'il y a déjà dans le territoire de la communauté de communes, ça voudrait dire que finalement, j'ai rien compris. Donc on est dans des trucs de fous, parce qu'en fait, on nous bassine, on nous dit oui, les énergies renouvelables, etc., etc. Et comme vous parliez d'enfumage, en fait, dans le concret, on fait le contraire. Voilà.
Mais méfiez-vous des bureaux d'études. Il faut vraiment prendre des bureaux d'études indépendants qui n'ont pas eu l'agrément de l'administration, parce qu'eux, ils font la politique de l'administration. Voilà. Et ensuite, la dernière fois, la loi L214-17-1, qui parle de la continuité écologique, n'a jamais dit qu'il fallait démolir les chaussées. Les chaussées doivent être entretenues, gérées, équipées. Jamais il n'a écrit. C'est de l'abus de pouvoir et c'est de l'interprétation de la loi.
Juste, vous avez évoqué le plan climat-énergie. Je vous invite à lire ce qui a été fait. Alors, c'est à deux pas, hein, la communauté de communes et du Corse de Corde. Ça me gêne, bon, je ne vais pas citer le qui a fait quoi. Concernant la production hydroélectrique, je puis vous assurer que tout est faux. Je vous invite à regarder la page 36 de ce document restitution. Je le donne à qui le veut. La page 36, il vaut son pesant d'or. J'ai réussi à discuter avec les personnes. J'étais à Albi à la Réunion, à l'école des mines. J'y suis allé 3 ou 4 fois, je n'y vais plus. Je n'y vais plus. Je le tiens à votre disposition, à ceux qui me le demandent. Je l'ai, tout le monde l'a. Page 36, je vous en supplie, regardez, lisez-le, je vous le donne.
S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, on a eu un débat assez large. Je pense que Denis Ferté voudra redire un mot et je ferai aussi un mot après.
Bien, un tout petit mot. Oui, ce que je voulais dire par rapport à la chaussée de Roumégou, c'est à l'équipement en turbine. Et que la rentabilité, ça fera un peu d'électricité, bien évidemment. Simplement, les investissements qui seront nécessaires pour faire cette électricité seront assez peu rentables, quoi, c'est tout. Hein. Donc, en termes financiers, je parle, hein, en termes financiers, compte tenu des travaux. Ceci étant, c'est dans notre objectif de le faire. Nous avons déjà demandé au pays Midi-Quercy de la possibilité d'avoir des subventions européennes du leader. Et nous avons sur le pays Midi-Quercy aussi une SIC, une société civile d'intérêt collectif, société coopérative, bon bref, énergie citoyenne, qui est spécialisée, qui ne fait que de la production d'énergie renouvelable. Pour l'instant, c'est essentiellement du photovoltaïque. La commune de Saint-Antonin est adhérente à cette SIC, je suis administrateur de cette SIC, monsieur également, et j'ai déjà demandé plus ou moins la possibilité à ce qu'elle intervienne pour la réalisation de cette turbine sur la chaussée de Roumégous. Voilà.
Merci, ce sont des bonnes nouvelles. Je voudrais juste donner quelques réactions que m'inspire notre débat. La première, c'est quand même que vous l'avez senti, le débat est devenu vraiment national, c'est-à-dire qu'il y a des résonances partout. Nous, on a aperçu le Quercy, mais le Quercy nous met au national, et il y a plusieurs fédérations, et il y a des problèmes du même type un peu partout. Et ça fait évidemment hésiter les acteurs locaux qui attendent de savoir quelle est la politique nationale sur laquelle on peut se mettre d'accord. On en est encore loin, et ça n'invite pas à se précipiter pour faire quelque chose ici, dans un sujet aussi controversé. Deuxièmement, à plusieurs moments de notre débat, on a mis en cause la vérité de ce qui est dit par les rapports, par les auteurs, par les acteurs publics notamment. Et je comprends que c'est comme ça quand on a un débat polémique. Et ici, on n'est pas en mesure de sortir la vérité du puits. Il faut se dire ça. Et donc, il faut continuer à regarder, se renseigner, étudier. Et la troisième chose que je voudrais dire pour terminer, c'est pour la situation locale. À Saint-Antonin, jusqu'ici, on a été assez en phase, la commune, et nous, l'association des Amis du Vieux Saint-Antonin, qui avons posé cette question depuis 3 ans. Je voudrais seulement, devant le point précis qu'on a évoqué tout à l'heure, de se lancer dans les études que nous demande l'administration de l'écologie pour faire la continuité écologique. La ministre nous y a invités. Elle nous a donné une sorte d'assurance en disant si ces études font baisser le niveau d'eau à Saint-Antonin, on vous promet que ce ne sera pas exécuté. Mais c'est une parole qui vaut cette parole momentanément. On a besoin, nous, quand même, d'une plus grande sécurité. On peut se réjouir qu'elle ait dit cela, mais ça ne suffit pas à nous assurer que l'administration sur le terrain, qui n'arrête pas de nous dire « faites les études et on vous subventionnera », mais elle nous dit aussi, il faut quand même le savoir, si vous vous lancez dans un projet hydroélectrique, vous devrez rembourser les subventions qu'on vous a données. C'est-à-dire que pour le terrain de l'administration, au niveau départemental, les deux choses ne sont pas compatibles. La ministre nous a dit le contraire. Qui a raison? C'est très difficile. Je pense que pour avancer, nous, au niveau local, il faut s'appuyer sur ce qui est le plus solide. Ce qui est le plus solide, c'est la loi nouvelle qui donne aux propriétaires, la commune dans notre cas, qui équipe pour produire de l'électricité sa chaussée, le droit d'échapper aux contraintes et aux règles de la continuité écologique et l'obligation de faire une échancrure, et même des passes à poissons d'ailleurs, mais surtout à échapper à faire une échancrure. Et donc il faut certainement se mettre dans le cadre de bénéficier de cette exonération, et donc il faut, comme tu l'as dit d'ailleurs Denis, diligenter toutes les procédures qui permettent d'être dans cette situation, faire reconnaître nos droits d'eau, faire la déclaration d'intention de faire un projet, vérifier que l'administration ne s'y oppose pas. Et à ce moment-là, on tient le bon bout, je dirais, du point de vue du droit et des rapports avec l'administration. On peut s'engager dans une étude qui nous dira ce qu'il en est. Je ne tranche pas la question de savoir s'il y a besoin d'une étude pour savoir si une échancrure baisse le niveau d'eau. Pour ma part, c'est clair, mais on peut admettre qu'il faille une étude. Mais je rappelle que quand même, dans le schéma proposé par l'administration départementale ici, pour Romégousse et pour les autres barrages d'ailleurs de notre territoire, on est dans un schéma que nous ne contrôlons absolument pas. Les études doivent être validées dans leur cahier des charges par l'administration qui les finance et qui les subventionne, et la prise en compte d'autres points de vue que de leur est extrêmement difficile. Donc on peut bien en effet essayer d'obtenir que l'association des Moulins du Quercy ou la nôtre soit présente dans le schéma, mais vraiment, on est dans un système où on a l'impression d'entrer dans un toboggan dont l'issue est assez bien connue. Donc il faut quand même se méfier. C'est pour ça que j'ai parlé de prudence. Nous sommes prudents devant la situation, et il faut mieux faire avancer ce qui nous consolide que ce qui nous exposerait au risque de perdre le miroir d'eau.
Sur le plan pour la fin du dossier, évidemment, n'est pas clos. Je vous invite à retourner sur le site des Amis du Vieux Saint-Antonin, où on a mis et on continuera à mettre de la documentation par rapport à ces problématiques-là. Vous avez aussi compris qu'on parle beaucoup du ministère de l'Environnement et de l'Écologie. Or, je rappelle qu'il y a une circulaire qui dit que sur tout ouvrage, enfin sur tout travaux portant sur une chaussée et un moulin, on doit avoir un avis fait en même temps par le ministère de l'Écologie et par le ministère de la Culture. Or, aucun propriétaire de moulin qui a été approché par le ministère de l'Environnement s'est vu proposer le questionnaire d'évaluation que les ministres ont mis au point. Moi, je l'ai là, il est là, le questionnaire fait 4 pages, pas très dur, hein, mais personne n'en parle jamais. Donc, on s'assied aussi, les ministres s'assiedent sur ce qu'ils ont défini, évidemment sous la pression patrimoniale. Mais en tout cas, normalement, s'il y avait des travaux sur un moulin sans que l'évaluation patrimoniale ait été faite, ça vaut. Enfin, s'il y avait une décision de faire des travaux sans ça, ça vaut un recours au tribunal administratif et manifestement l'annulation.
Oui, il y a encore des demandes de parole.
Moi, je suis uniquement dans le rappel de ce que j'ai exprimé dans ma présentation tout à l'heure. Je ne voudrais pas qu'on s'en aille sans que vous ayez la possibilité de faire acte de candidature pour des moulins qui seraient susceptibles de rejoindre le réveil des moulins, c'est-à-dire l'action qu'on a lancée aujourd'hui en termes de réponse à l'appel à projet de la région Occitanie, de façon à ce qu'on réponde, comme Thierry le disait tout à l'heure, aux invitations de l'État. C'est-à-dire que l'État aujourd'hui, c'est-à-dire l'ADEME, puisque c'est un organe d'État, réclame une liste abondée de sites à étudier dans le cadre du réveil des moulins. Nous n'avons pas suffisamment aujourd'hui de candidatures dans le Tarn-et-Garonne. Je vous invite à vous exprimer sur le sujet. On vous expliquera après, je dirais, un peu la marche à suivre. Il est évident que ça passe évidemment à un moment ou à un autre par une participation. J'espère que de toute façon, on réussira de régler de façon à ce que ça soit la plus atténuée possible, sachant que le but du jeu, justement, de la réponse à appel à projet, c'est d'obtenir des subventions aux études par le fonds qui a été mis en place à dessein par la région et par l'ADEME. Voilà. Il faut absolument que vous y réfléchissiez, que vous laissiez votre proposition de candidature ou bien que vous nous l'envoyiez, que ce soit à la SAFSA ou bien au Moulin du Quercy. Merci.
Merci. Peut-être qu'on va arrêter cette réunion pour ne pas vous prendre trop de l'après-midi du samedi. Vous avez compris qu'on avait fait une réunion il y a 3 ans. On en fait une maintenant parce qu'on sent bien que ça compte dans le rapport de force avec l'administration, aussi bien d'ailleurs pour la commune que pour l'association. Et on en refera d'autres en tant que de besoin, mais on ne va pas le faire tous les 15 jours. Je vous remercie d'être venu.